France Inter.
To be or not to be, not to be.
Bien comprendre une œuvre de pop culture, ça a l'air d'être infiniment plus compliqué qu'il n'y paraît. Regardez One Piece. L'histoire d'un jeune pirate épris de liberté qui s'oppose à l'esclavage des minorités et affronte littéralement le gouvernement mondial et l'ordre établi. Eh bien, il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux des fans de ce manga tenir des propos extrêmement réactionnaires, voire punissables par la loi. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de leur manga préféré ? Ça, c'est un secret encore mieux gardé que le One Piece lui-même. Le comic book X-Men, qui parle de la discrimination que subissent les mutants. Souvent, des individus qui découvrent leur pouvoir à l'adolescence, parabole du coming out ou de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Eh bien, pour certains lecteurs, les X-Men ne sont pas une œuvre politique. Le débat qui oppose le professeur Xavier à Magneto, rescapé juif des camps de la mort, n'a strictement rien à voir avec des conflits réels. Superman, un migrant, dernier rescapé d'une planète qui a explosé parce que les dirigeants n'ont pas su écouter les avertissements de la communauté scientifique qui leur disait que les ressources étaient épuisées. Un héros, dont le plus grand ennemi est un entrepreneur qui utilise la technologie pour asseoir sa popularité. Eh bien, c'est pas politique du tout. Non, non, non. Je suis étonné que les fans de pop culture ne figurent pas parmi les plus grands écolos de la planète, tellement ils ont l'air forts en tri sélectif.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Homelander. Le protecteur.
He's a human.
C'est aussi un humain. Il est comme chacun d'entre nous. Et nous faisons tous des erreurs, pas vrai?
We all deserve second chances.
Mais nous avons tous droit à une seconde chance. Dans cet esprit, le protecteur s'est engagé à faire don de 10 millions de dollars à la maison Stella, ce qui est énorme, ça s'applaudit. Tous ensemble, allez, on applaudit son bon cœur.
Non, non.
Stella lied to you just now.
Non, c'est faux, Stella vous ment.
I don't make mistakes.
Je ne fais pas d'erreurs. Je ne suis pas comme chacun d'entre vous.
I'm stronger. I'm smarter.
Je suis plus fort. Je suis plus malin.
Better. I am better.
Je suis meilleur.
I'm not some weak-kneed fucking crybaby.
Je suis pas une espèce de flippette pleurnicheuse trouillarde qui passe sa vie à demander pardon. Et pourquoi voudriez-vous que je le sois?
Envoie la pub, Roger. Envoie la putain de pub.
Ne t'avise surtout pas de couper le direct, Roger.
All my life, people have tried to control.
Toute ma vie, des gens ont voulu me contrôler. Toute ma vie, des gens riches, des gens puissants, des gens importants. Ils ont essayé de me museler, de m'effacer, de me rendre impotent et obéissant comme une putain de marionnette. Et ils y sont arrivés parce que je les ai autorisés à y arriver. Et devinez quoi, s'ils peuvent me contrôler moi,
vous pouvez être sûr qu'ils peuvent vous contrôler vous. Ils le font déjà sans que vous en rendiez compte.
I'm done.
Mais c'est terminé.
I'm done apologizing.
Terminé de demander pardon. Terminé d'être persécuté à cause de ma force. Vous, le peuple, vous devriez remercier le ciel que je sois celui que je suis, parce que vous avez besoin de moi.
You need me to save you.
Vous avez besoin de moi pour vous sauver.
You do.
Et vous le savez.
I am the only one who possibly can.
Parce que je suis le seul en mesure de le faire.
You're not the real heroes.
Vous n'êtes pas les véritables héros.
I'm the real hero.
C'est moi le vrai héros.
Lorsque le scénariste Garth Ennis et le dessinateur Darick Robertson créent le comic book The Boys, une satire de la Justice League, le groupe de super-héros DC Comics, ils sont en terrain connu. Chacun ayant travaillé chez DC ou chez Marvel, dans ces maisons d'édition, l'occasion était trop bonne de donner leur version iconoclaste et irrévérencieuse de ces icônes. Un monde où les super-héros ne sont que des produits d'une multinationale obnubilée par leur célébrité et les avantages qui vont avec. Lorsqu'en 2019, Eric Kripke décide d'adapter la BD pour les écrans de Prime Video, cela après avoir vu exploser le nombre de films de super-héros sur grand écran, il sait que le public est désormais mûr pour saisir la satire d'un genre devenu omniprésent. Pour revenir sur la genèse de cette série de sales gosses, je suis en compagnie de Olivier Corentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur pour le site comicsblog.fr et fondateur du podcast First Print.
C'est ça.
Avec nous également de retour, Benjamin Patineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vidéaste et essayiste pour la chaîne YouTube Bolchegeek, mais aussi pour L'Humanité et Blast. Et votre dernière grosse vidéo pour Bolchegeek porte justement sur The Boys.
Effectivement.
Les présentations sont faites.
Starlight,
Don't want to be late to your first official meeting.
Pas bien d'être en retard pour ta première réunion officielle.
I had a whole welcome speech.
J'ai un discours de bienvenue pour toi.
Sorry, sir.
Désolé, monsieur.
Please, Homer.
Je t'en prie, le protecteur te pardonne.
Can we get back to this, please?
On peut revenir au sujet du jour, s'il vous plaît. C'est extrêmement grave. Des enfoirés ont piraté mon film trois semaines avant sa sortie. Et on ne peut plus avancer sur la 5e avenue sans tomber sur des contrefaçons à l'effigie du protecteur. La violation sur les droits du copyright coûte à vos 1,2 milliard de dollars par an. Et je vous rappelle qu'on a tous quoi? 4 points d'intéressement sur le merchandising.
Quoi? T'es sérieux?
You got 4 points?
T'as eu 4 points, toi?
Clearly better lawyers.
Il a surtout eu de meilleurs avocats.
Hey, guys, come on.
Oh, ça suffit.
Stop.
On se calme.
Starlight gonna think.
Qu'est-ce que Stella va penser de nous?
Listen to us haggling.
On est une bande de comptables obsédés par l'argent.
We're the seven, for God's sake.
Nous sommes les sept, d'accord?
Whether we're out there,
que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur.
Now what I do want to hear.
Ce qui m'intéresse, moi,
is who you saved.
C'est de savoir qui vous avez sauvé hier.
Huh? Who's up for that?
Qui veut me raconter?
Un extrait du Conseil des Sept dans The Boys, où l'on entend notamment Homelander, le protecteur, interprété par Anthony Starr, avec la voix de Jérôme Powell pour la VF, ainsi que Translucide, interprété par Alex Hassel, avec Jérémy Prévost pour la VF. Olivier Corentin, avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne aux auteurs de The Boys, Garth Ennis et Darick Robertson. D'où viennent ces personnalités fortes du monde du comics?
Alors, ils viennent du Royaume-Uni, et c'est très important pour comprendre et la jeunesse de The Boys et sa lecture du super-héros. Garth Ennis, d'abord, c'est un auteur qui est irlandais. Il grandit en Irlande du Nord, dans la banlieue de Belfast, à une époque, donc il naît dans les années 70, à une époque où, en fait, le marché de la BD locale, le marché des comics, est très différent de ce qui est produit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le genre dominant, ça reste le super-héros, depuis le début, depuis l'invention de Superman. Et culturellement, c'est plutôt logique, c'est plutôt cohérent avec la mentalité américaine de l'homme providentiel, le justicier, qui va compléter les pouvoirs publics en allant chercher les criminels et en les rendant à la justice. Au Royaume-Uni, en Irlande particulièrement à cette période, il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité. Il y a une méfiance vis-à-vis de ce que représentent la police, l'armée, le gouvernement. Et c'est toujours, en fait, une constante dans la BD qui est produite en Angleterre, mais aussi en Écosse et en Irlande. C'est plutôt paranoïaque, c'est plus cynique, c'est plus négatif. Et il y a d'autres genres, du coup, qui vont graviter autour pour compléter les manques que le super-héros n'arrive pas à imposer. Notamment la BD militaire, la BD de science-fiction, la BD de science-fiction paranoïaque, dystopique, d'anticipation. Et c'est avec ça, en fait, avec un auteur qui s'appelle Pat Mills, surtout, qui est le créateur de Judge Dredd et de la série de Charlie's War aussi, une chronique militaire très très négative et très très consciente de ce qu'étaient les grands conflits armés, que va grandir Garth Ennis, qui découvre les comics dans la cellule familiale. Et il se trouve qu'il tombe amoureux de la BD, mais en grandissant, quand il veut devenir lui-même auteur, donc il a beaucoup de talent, il va être repéré par les grandes maisons d'édition américaines, comme vous le disiez, mais plutôt que suivre le cursus honorum classique, on va dire, en devenant justement un grand scénariste sur Superman, sur Batman, sur Spider-Man, lui, ça ne l'intéresse pas. Il préfère les personnages plus périphériques, comme le Punisher ou Nick Fury, par exemple, chez Marvel, ou bien surtout la création originale. Il va créer beaucoup, beaucoup de comics très politiques, très violents, très contestataires, sur la figure de Dieu, sur la figure des justiciers, beaucoup de satire, justement, assez corrosive. Dans The Boys, par exemple, justement, qui est donc lancé en 2006 chez Wildstorm et qui ensuite va quitter cette maison d'édition-là, on parle directement de drogue, on parle directement de meurtre, on parle directement de l'influence du capitalisme sur les industries créatives et du complexe militaro-industriel. Et en fait, c'est un peu là qu'il a déversé tout ce qu'il pense de bien, on va dire, des super-héros au sens large.
Oui, du système. C'était lui également qui était à l'origine de Hitman chez DC Comics, qui était déjà une sorte d'électron libre au sein de l'écurie DC Comics.
Oui, tout à fait. En fait, Hitman, c'est un peu ce qu'on considère comme une sorte de brouillon ou de version réussie selon les opinions de ce que sera The Boys. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Tommy Monaghan qui est un tueur à gages dans l'univers de DC Comics, à Gotham City, avec Batman, et qui va en fait prendre sur lui de dessouder beaucoup de super-héros qui sont déjà très corrompus. Mais une fois qu'après il aura posé cette première idée-là, qui est déjà très réussie, qui lui vaut beaucoup de succès, il va s'intéresser d'une part à la figure de Dieu dans Preacher, qui a aussi été adapté à la télévision, et ensuite chez Wildstorm, qui est un petit bureau chez DC Comics, qui justement publie beaucoup de BD plus contestataires, plus politiques, comme The Authority par exemple, on le laisse lancer l'idée en fait de The Boys, à une période où les super-héros sont en pleine remise en question. On sort des années 90, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites avec les super-héros, parce qu'ils ont accumulé beaucoup de poussière, et on se dit que des voix comme Garth Ennis, parce qu'il y a beaucoup d'autres scénaristes du Royaume-Uni qui ont migré vers les États-Unis à ce moment-là, peuvent renouveler un peu les idées. Et en fait, DC Comics, quand ils publient The Boys au début, ça a l'air de plutôt bien se présenter, et au bout de quelques numéros, ils sont très gênés par ce qui est fait, en fait, puisqu'on voit des super-héros qui sont des agresseurs sexuels, des toxicomanes, et en fait, ils vont demander gentiment ça va plutôt bien se résoudre, à Garth Ennis et Derek Robertson de prendre leurs valises et d'aller le faire publier ailleurs, parce que ce projet est déjà très très choquant, même dans les États-Unis des années 2000.
Benjamin Patimot, comment avez-vous découvert The Boys ? Par la série ou par le comic book ?
Alors, par le comic book, parce que justement, moi, je suis rentré dans le comic book un peu avec ce dont tu viens de parler, justement. C'est-à-dire, pas par les classiques, mais plutôt par ce qui se faisait déjà un petit peu plus trash et un peu plus politique et pas forcément sérieux, parce que c'est pas toujours très sérieux justement, mais voilà, qui remettait un petit peu en cause ces figures-là, dont Authority et dont du coup The Boys, et étonnamment c'est ce qui m'a amené ensuite à m'intéresser plus aux classiques mais c'était vraiment ma porte d'entrée, The Boys, Authority et ce genre de BD.
Authority, d'ailleurs, qui présente le couple le plus puissant de l'univers Wildstorm, Apollo et Midnighter, des versions de Superman et de Batman qui sont en couple amoureux. Et d'ailleurs, ça avait défrayé la chronique à l'époque de présenter un couple homosexuel dans une équipe de super-héros qui ressemble à la Justice League.
Oui, oui, puis même dans une forme un petit peu de pied de nez, parce que c'est vraiment explicitement Superman et Batman. Et c'est, enfin, clairement, il y a un côté, et c'était... pareil, c'est des auteurs britanniques en fait qui s'amusaient à faire ce genre de choses, à faire des trucs un petit peu plus punk et un peu plus. Alors maintenant, d'aucuns crieraient au wokisme, mais justement, qui faisaient des choses, c'était considéré comme des choses assez punk à ce moment-là.
Mais d'ailleurs, la totalité de l'histoire du comic book, on en a souvent parlé à Blockbuster, peut être désormais estampillé wokiste avant l'heure dès 1938. Voilà, dès qu'on voit Superman s'en prendre à un promoteur immobilier ou à.
Nous sommes en plein cycle Superman, effectivement, dès son premières apparitions, il combat les maris violents, les politiciens corrompus. Stan Lee et Jack Kirby, dont on sait qu'ils ont créé l'univers Marvel, ont créé le Black Panther aussi.
Mmh. Captain America met un pain à Hitler.
Exactement, ce qui serait probablement considéré comme polémique dans le présent.
Oui.
Et jusqu'au présent aussi, encore une fois, les scénaristes britanniques, eux, ils ont un souvenir beaucoup plus vif de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, et la plupart d'entre eux sont en réaction avec la politique de Margaret Thatcher, qui a vraiment imprimé un très mauvais souvenir, en particulier sur les Irlandais. Et quand Garth Ennis arrive aux États-Unis, c'est en plein pendant la présidence de George Bush qui commence à publier The Boys. C'est une référence très marquée. Il y a des vrais coups de poing qui sont envoyés à George W. Bush, au complexe militaro-industriel et à Dick Cheney. C'est un des propos qui, du coup, a un peu vieilli aujourd'hui, qui a été remis à jour dans la série télé, qui parle plus du présent.
Et c'est vrai que quand on lit The Boys, il y a vraiment ce côté... effectivement très politique et très polémique, mais il y a aussi un côté régressif très bête et méchant qui pourrait presque rappeler certaines œuvres de caricaturistes qu'on peut avoir en France. Et est-ce que c'était dès le départ la volonté d'être plus une satire ou d'avoir un propos plus politique ou quel est votre avis là-dessus?
Disons que Garth Ennis, je vous permets de me poser la parole, mais Garth Ennis, c'est aussi un grand enfant. Il a un humour très gras, comme tu le disais, très trash. Et c'est généralement une caractéristique commune à beaucoup de ses œuvres. Auparavant de The Boys, il avait fait The Pro, l'histoire d'une prostituée super-héros qui peut, entre guillemets, aller plus vite grâce à sa super vitesse, donc gagner plus d'argent en provoquant ce qu'on sait, voilà. Donc il y a toujours eu ce côté un peu sale gamin, évidemment.
C'est le résumé le plus rapide.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire que moi, je connais l'œuvre, donc...
Vous pouvez lire The Pro, c'est disponible en français, comme Hitman d'ailleurs, bien sûr. Mais il y a toujours eu, effectivement, ce côté un peu rentre-dedans. C'est pas spécifique à la satire, c'est généralement un homme qui a cet humour-là. En revanche, dans The Boys, c'est un brûlot. Il y a vraiment un brûlot qui est extrêmement agressif, qui traite à la fois de la moralité des super-héros, de leur place dans le système économique, dans le système politique, dans l'idée justement qui cache la réalité en fait de l'action sociale. Il y a aussi beaucoup de trucs par rapport au vrai scandale industriel pharmaceutique des États-Unis. Depuis le début, en fait, c'est juste... pas que pour les super-héros, mais c'est une attaque frontale contre toutes les États-Unis traditionnelles, conservatrices et des grandes entreprises. Et il n'hésite pas effectivement à y aller très fort. La première scène de The Boys, c'est littéralement le héros, Huey Campbell, qui tient sa petite amie par les mains et qui en fait va se faire percuter par un super-héros. Il n'a plus que ses mains avec
qui court très vite et train et qui.
Exactement. Et cette scène-là, par exemple, a choqué beaucoup de monde, évidemment, dès la sortie du premier numéro.
Benjamin Patinot, est-ce que la satire vous est apparue au premier plan ou c'est plutôt le brûlot politique qui vous a laissé la plus grosse impression ?
Ouais, je pense que c'est les deux, et surtout dans The Boys et surtout en lisant tout, parce que plus ça avance, plus le côté brûlot en fait est évident. Il y a même des choses qui sont très très intelligentes sur le complexe militaro-industriel, et il revient beaucoup sur l'histoire des guerres américaines, sur l'histoire du capitalisme américain, avec des choses assez concrètes et solides. Et il y a en fait il y a quand même un savant dosage. Alors des fois il n'est pas si savant que ça, parce que justement c'est pour ça que je disais que c'est punk, c'est que des fois c'est vraiment très con et c'est aussi le but, et c'est pas toujours très malin être punk. Des fois c'est aussi faire des trucs un peu bêtes, quoi. Mais il arrive toujours à dire, je trouve, Ennis, là c'est pas drôle. Ça, ok, c'est marrant, mais ça, ça va avoir des conséquences. Et il y a un dosage qui est assez bien fait, je trouve, dans The Boys, peut-être plus que dans certaines BD de cet ordre-là, où des fois la provocation est un petit peu inconséquente. Là, il y a vraiment, par exemple, il y a énormément effectivement de trucs très gore ou crades ou sexuels, etc. Mais par exemple, quand il y a des violences comme, par exemple, ce qui se passe avec la copine de Huggy, mais aussi tout ce qui est les agressions sexuelles, etc., qui sont un peu omniprésentes, les personnages ont des traumas, et c'est des choses qui vont les accompagner tout le temps, et c'est traité relativement sérieusement. Alors il y a des choses qui sont plus ou moins maladroites ou qui ont plus ou moins mal vieilli, mais je trouve que le dosage justement entre brûlot et juste presque parodie débile de super-héros, Ennis arrive à trouver toujours un petit peu le ton d'indiquer ce qui se passe ou pas, et ce qu'il faut, et c'est pas juste un gamin quoi ou un ado qui s'amuse avec des super-héros.
Dans la série The Boys, il y a un Français qui s'appelle Frenchy et qui parle français, comme moi, je maîtrise les langues étrangères. C'est-à-dire que si on est français, on sait que c'est pas vraiment du français, mais pour un Américain, ça peut passer pour du français. Ah, oh, mais comment tu dis, la chérie, elle a mangé les croissants.
Tu fais bien.
Ouais, mais je fais bien. Mais c'est, il faut trouver des mots. Mais c'est pas ça, mon amour, qu'il a fallu faire autre chose. Et donc, il écoute du rap, parce qu'en France, on écoute du rap. Tout le monde écoute du rap. Et il écoute Youssoupha, qui nous interprète La Foule, partie 2.
Ce sample est dingue, Tinègue. Yeah. Droom Dreamers. Ça, c'est La Foule, partie 2. Yeah. Ok. Chante, Edith, chante. Sam, c'est le 33. Et moi-même, Youssoupha, prime, parolier, le lyriciste de Bantou. Yeah, la foule, ok. Les mauvaises langues piaillent, Beaumaillé is in the house. Hardcore Edith Piaf devient Amy Winehouse. Place une dédicace et puis c'est le blackout. Le rap fait du surplace, les MC font de la house. La foule fait du bounce, quand le hip-hop frappe. J'aimerais donner à DC l'envie de continuer le rap. Arrêtez de roucouler, déballez vos crasses. Moi je repars en tournée, remballez vos clashs. C'est la grande classe, y'a des concerts cool, y'a des concerts à l'arrache. Old school ou new school, mais quand j'entends la foule, j'ai le cœur qui s'arrête ensuite. Je vis des moments rares, trop rares, comme les minarets en Suisse. Si tu me suis, écrit sur les forums, corte-feu, cherche des boucs émissaires et tous les chemins mènent au Rhum. Jusqu'à l'aurore, on se défoule, en perdre la boule. Je coule, emporté par la foule. Yeah. On vous l'avait dit que vous n'aviez jamais entendu de rap français. Chante, Edith, chante. Willy Gio, Black Sound Studio. Oliver Twist, c'est les Droom Dreamers. Yeah. Sam, ça dit quoi? Sam,
Mr. Sam, yeah. Je suis emporté par la foule, concert atmosphère sale, je me sens frappé par la foudre, public chauffé comme un four, saucé par la foudre, guichet fermé ou pas, ma gueule, j'en ai rien à foutre, moi, qu'à toi des bafoules, bite de foudre, ouais. J'ai la reine qui te roule le cul, et en plus, on y fout le doigt. Tes têtes d'affiche deviennent nos groupies, plus rien ne m'étonne, j'y sois gadroupie. Sur les routes, on roupie, on tourne plus qu'une toupie. Débarque sur scène en troupe, voleuse belle finit accroupie. Cumule la pression, la change en transe. Cette énergie qui émane de nos micros et fait jumper public de France. Dès que j'entends crier la foule, j'ai le sang qui bougrave. Toujours chaud pour balancer, non, je te parle pas de poucave. Préviens ta zone, qu'on est al, viens apprécier mon show. Tellement chaud qu'on fait même applaudir les manchots.
Applaudissements pour Mr. Sam, tiens. Hey frère, arrête de foutre le bordel sur la tournée. FBI criminel, DJ Fresh, La Sana, Pierre Mafoy, Pomaille Musique, encore une fois emporté par la foule. Droom Dreamers, Oliver Twist, Dinek, SKM, Gore Warrior, Ayo Squad, Dixon, Mookly MC. Une spéciale dédicace pour tous les mecs du Montmélie. 9, 4, 9, 5, 9, 9.
Hey Julien, je crois que c'est bon là. Je peux couper la musique. Chante Edith, chante seulement.
Blockbuster.
Je suis pas mauvaise.
Frédéric Sigrist.
Je suis juste dessinée comme ça.
Sur France Inter.
I'm in Montpellier, Vermont.
Je suis à Montpellier, dans le Vermont. 12 personnes sont mortes, héros et civils confondus. Des dizaines d'autres sont blessés. Que ce soit le protecteur ou Vought, ils vont vous dire que c'était une attaque du super vilain et qu'ils ont la situation sous contrôle. Rien n'est sous contrôle. La plupart des héros se fichent complètement de vous. Tout ce qui les préoccupe, c'est leur image et... Le protecteur est le pire d'entre eux. Il a fait du mal à des gens. Il a fait quelque chose à Maeve. Je ne sais pas ce qu'ils me feront à moi pour avoir dit la vérité. Mais j'ai la ferme intention de continuer. Et j'aurais dû le faire plus tôt, je suis désolée. Et une dernière chose. Je ne m'appelle plus Stella à partir de maintenant.
My name is Annie January.
Mon nom est Annie January.
And I fucking quit.
Et putain, je démissionne.
Vous venez d'entendre un extrait de The Boys saison 3 épisode 6 où l'on entend Stella interprétée par Erin Moriarty avec Leslie Lipkins pour la version française. Olivier Corentin, à quel moment on a eu l'idée, quand je dis « on », c'est-à-dire les studios, de faire une série autour d'une bande dessinée aussi subversive au départ?
Très rapidement. En fait, on s'en rend pas compte, hein, mais parce que le marché de la BD est très différent aux États-Unis. Mais très régulièrement, dès qu'une nouveauté sort, il y a des agents qui sont chargés d'étudier un petit peu ce qui se fait sur le marché des romans et le marché des romans graphiques et trouver un petit peu qu'est-ce qui pourrait être avoir le potentiel pour être adapté. À ce moment-là, Garth Ennis aurait dû être adapté par Adam McKay, réalisateur, qui a fait notamment le film The Big Short, entre autres, qu'il a fait aussi le film Vice. Tout à l'heure, j'en parlais de Dick Cheney, qui aurait probablement été un bon choix. On s'aperçoit quand même que ça va être compliqué au niveau tonalité, au niveau de la violence graphique et la violence sexuelle. Finalement, c'est Seth Rogen, humoriste et acteur canadien et producteur aussi à 16 heures, qui avait en partie travaillé sur la série Preacher déjà et qui a aussi développé la série Invincible pour Amazon Prime Video, qui facilite la transition vers Eric Kripke, ou Kripke, qui est donc, lui, comme on le sait, un gros fan de comics. Eric Kripke, il a travaillé sur la série Supernatural, il a développé, produit, et qui reprend beaucoup d'idées du monde des comics, notamment des comics Constantine et Hellblazer, sur lesquels Garth Ennis a beaucoup travaillé et va vraiment révolutionner cette mythologie. Et aussi, il a écrit des comics, Eric Kripke, notamment le série Jacked, qui a été publié chez DC Comics aussi. Ça tombe entre ses mains et il voit la possibilité, justement, de faire une grosse mise à jour pour parler, en fait, des États-Unis de Trump, en fait. C'est où il n'y a pas 40 façons de le dire. On est à l'époque, déjà, de l'ascension de Donald Trump. On est à l'époque où les idéaux néo-fascistes se répandent dans l'opinion. Et là, à ce moment-là, l'objectif, c'est de faire plusieurs choses. C'est déjà de parler d'Hollywood, de parler du néofascisme, de parler aussi de la montée des réseaux sociaux et de l'influence qu'ils ont dans le débat public, et aussi de parler du marketing.
Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence dans les débats publics?
Peut-être, une petite. Peut-être qu'on les achète pour ça, même, apparemment. Et justement, à ce moment-là, on parle aussi beaucoup de marketing. La série The Boys parle énormément de marketing, de comment on peut bâtir des narratifs quand on possède des grands groupes de presse privés, quand on possède des plateformes de réseaux sociaux, de comment on peut articuler un comeback d'un agresseur sexuel. Ça parle aussi du mouvement MeToo, puisque dès le début de la série, on a le personnage de The Deep, alors je ne connais pas son nom français, mais qui commet une agression sexuelle. Et petit à petit, on voit en fait que Eric Kripke, un peu comme les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, prend énormément en fait de références au réel, très modernes, très contemporaines, pour parler précisément de points extrêmement explicites des États-Unis du présent. La série sort, c'est un énorme succès. Au départ, un peu freiné par Amazon, qui va censurer une scène ou deux. On sait que normalement, on va avoir une scène avec l'Homelander qui se masturbait au sommet du Chrysler Building. Finalement, cette scène-là aura eu lieu dans la saison 2, parce que c'est un gros succès et que, d'un coup, ça devient le principal moteur d'audience de Prime.
C'est un argument bizarre. Hein. C'est-à-dire que si jamais on a un certain succès, tu auras le droit de te masturber au haut du Chrysler Building. C'est vraiment... Ils ont une échelle de valeur qui est particulière.
Donc si vous nous écoutez chez nous, vous n'avez probablement pas encore le droit de faire ça, c'est que vous n'êtes pas arrivé assez haut dans les hautes sphères. Mais du coup, ouais, c'est un très gros succès. Après, depuis, on sait, il y a eu les spin-offs et d'autres spin-offs qui sont à l'étude. C'est considéré maintenant comme le vrai gros véhicule de Prime Video dans le monde.
Benjamin Patineau, selon vous, qu'est-ce qui a séduit parmi le grand public lorsque cette série est apparue?
Ben, ça déjà, je pense la promesse d'avoir un truc un peu régressif et un petit peu parce qu'on en a marre de voir, voilà, ça fait 10 ans qu'on a du MCU et du côté un peu de super-héros Disney, etc. Donc ça arrive pile au bon moment, comme la BD arrivait pile au bon moment pour un peu salir ces icônes-là, ça plaît toujours un petit peu et ça se voit effectivement que la série, plus le succès avancent, plus ils y vont sur les trucs complètement débiles et les gens qui effectivement pénètrent dans des urètres en grâce à leur super pouvoir.
Alors dit comme ça, dans une conversation, ça peut sembler bizarre, mais il y a un méta-humain qui a le pouvoir de devenir tout petit et qui donne du plaisir à ses partenaires en rentrant dans l'urètre. Voilà. D'ailleurs, pensée émue pour le technicien des effets spéciaux qui a dû confectionner avec toute son équipe un pénis géant pour avoir la joie d'y faire rentrer un jeune acteur.
Il n'y a pas de saut métier, c'est un très bel accomplissement.
Il a peut-être même appelé sa famille. Regarde, c'est moi qui rentre dans le.
Mais ça, c'est typiquement le genre de truc qui fait regarder la série quand tu peux dire à tes potes c'est trop marrant, il se passe ça, etc. Oui. Et il y a ce truc qui marche très très bien. Et je pense qu'aussi, ça marche parce qu'il y a quand même beaucoup d'intrigues, les personnages sont assez marquants, ils sont très bien caractérisés et ils sont assez iconisés pour la plupart. Donc je pense que ça a pris ça. Et ça prend un peu le relais, même si c'est dans un autre registre, ça sort un petit peu quand Game of Thrones se finit. Il y a un petit peu une bagarre pour être le prochain phénomène, etc. Pas qu'en Heroic Fantasy, mais en tout cas avoir des séries comme ça, un petit peu blockbuster, justement, gros budget et un peu trashouille quand même, quoi. Avec essayer de prendre que HBO ait plus le monopole de va y avoir du sexe, de la violence et des trucs un peu trash.
Ce que j'appelle le public Spartacus.
Oui, exactement.
Voilà, si vous connaissez, il y a eu Rome, voilà, qui se permettait déjà pas mal de choses, et puis ensuite il y a eu Spartacus. Et ce public-là, il est un peu orphelin depuis. Et Game of Thrones le récupère, puis le prête ensuite à The Boys, ainsi de suite, il tourne. Donc là, en ce moment, il est là, il est sur The Boys.
Ouais, effectivement. Mais je pense que quand même, les liens avec l'actualité, enfin, le fait d'être autant à la remorque un peu de l'actualité et de pas trop louper leur coup en plus sur ces trucs-là, on fait aussi que ça faisait parler, mine de rien, justement, sur les réseaux sociaux, que ça crée du débat public et que la série est un phénomène aussi dans le sens où il y a un discours autour, les gens en parlent, les gens se battent dessus et les épisodes sont commentés de semaine, c'est toutes les semaines je crois que ça sort, et justement c'est pas sorti à la Netflix une saison d'un coup et on n'en parle plus. Il y a ce côté, ils ont entretenu aussi le côté un peu polémique, le côté un peu regarder quelle dinguerie s'est passé dans le dernier épisode, ils les teasent d'ailleurs, enfin genre justement ce fameux membre en effets spéciaux concret en dur, ils ont fait de la com dessus quoi, ils savent très bien aussi pourquoi les gens regardent ça quoi.
Et ce qui m'a frappé dès les premières saisons, moi j'avais lu le comic book et donc regardé les premiers épisodes avec beaucoup de plaisir, mais c'est de voir à quel point des médias généralistes, d'autres journalistes se sont emparés avec énormément de sérieux des thématiques dans The Boys, où moi je voyais quand même le côté justement très régressif de plein de choses, et j'ai eu des conversations avec des journalistes qui me disent non mais vraiment la manière dont ils traitent les super pouvoirs dans le réel, si jamais il y avait des super-héros, ça se passerait exactement comme ça. Et donc, je vous pose la question, vous êtes lecteur de comic books aussi, est-ce que vous êtes aussi convaincu que certains journalistes que j'ai pu croiser, que si jamais il y avait des méta-humains, on serait automatiquement dans ce royaume du cynisme et de l'exploitation marketing à tout craint?
En vrai, la question du réalisme, moi, je trouve qu'elle est, en fait, c'est un peu une fausse question, mais c'est plus que, est-ce qu'ils sont juste dans ce qu'ils disent? Et effectivement, là, moi, j'ai l'impression que le propos un peu de Ennis et qui est récupéré dans la série et que, effectivement, auquel je crois totalement, c'est que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et ben, les super pouvoirs, ça super corrompt, quoi. Donc moi, je crois effectivement tout à fait à ça. Mais en réalité, c'est pas une histoire de s'il y avait des surhumains, etc. Ça veut un peu rien dire de toute façon. C'est plutôt de quoi ça parle réellement. On s'en fiche. Il y a pas de surhumain, ça parle de tous les types de pouvoirs, c'est-à-dire du pouvoir économique, de la starification, de la domination masculine, de la domination raciale. Et en fait, c'est là-dessus qu'en fait c'est juste. Et les super-héros représentent quelque chose dans The Boys de ce point de vue-là.
Et puis j'ai envie de dire si les super-pouvoirs sont juste une allégorie effectivement des rapports de puissance au sein d'une société, on a déjà la preuve que même la satire, enfin la réalité va plus vite que la satire aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on parlait justement, il y a une très bonne scène dans la saison 2, je crois, avec le personnage de Stormfront, qui est donc cette justicière, vous ne le voyez pas, je mets des guillemets, qui était là à l'époque du Troisième Reich, et qui se retrouve propulsée dans le présent, dans les États-Unis du 21e siècle. Et elle harangue la foule, elle tient des discours, qui en fait sont ceux de Adolf Hitler, mais qui ressemblent beaucoup à ceux de Donald Trump. Et elle trouve un vrai écho au sein du public. À un moment donné, elle est exposée comme étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une ancienne nazie, celle qui a participé au Troisième Reich. Et elle a cette réplique où elle dit « Les gens aiment bien ce que je leur dis, mais ils n'aiment pas entendre le mot nazi. » compte tenu de l'actualité, compte tenu de ce qui se fait aujourd'hui en termes de communication, de marketing et de présentation des
vous
idéologies.
Vous voulez dire autisme, en fait, c'est ça.
C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, exactement.
Oui, les néo-autismes.
Voilà, c'est aujourd'hui, en fait, même une série comme The Boys, je pense, avait essayé d'alerter les opinions américaines sur les certains vrais dangers du présent. Aujourd'hui, si on met effectivement de côté le fait que les gens ne veulent pas vraiment ou ne lancent pas de boule de feu, il y a déjà des démonstrations que ce propos politique-là, il est évidemment très pertinent dans le présent, et c'est pour ça aussi, au-delà des blagues du côté trash et du côté blockbuster, que les gens continuent à regarder jusqu'à l'écœurement pour ceux qui n'adhèrent pas à ces idées-là.
Et The Boys, c'est aussi un acteur, on ne peut pas faire l'impasse sur Homelander, Anthony Starr, que beaucoup de gens ont découvert avec cette série, mais qui en fait avait déjà dans son passif une autre série qui, elle aussi, n'était pas à mettre sous n'importe quel regard, Banshee. Peut-être pouvez-vous parler de cette série Banshee
Ah ouais, ça me fait, je m'y attendais pas, je suis trop content de parler de Banshee. Ouais, Banshee, c'était une série. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Anthony Starr, en tout cas, et où il avait plus un rôle de d'anti-héros bagarre. C'est une série où c'est un type qui se fait passer pour le nouveau shérif, c'est un criminel en fait, mais il se fait passer pour le shérif d'une petite ville aux États-Unis. Il règle tout globalement à la bagarre et au sexe, et c'est globalement ça. Mais on le dit comme ça a l'air très très con. C'est vrai que c'est un peu con comme série, mais en vrai, c'est une série qualitative, c'est assez bien fait. C'est une des meilleures séries d'action, même moi je trouve, qui a été faite. Et il y a quand même des vraies intrigues, des vrais sujets et tout. Mais il était plus dans un rôle un peu presque Steven Seagal, mais qui joue quand même un petit peu plus. Et il n'avait pas encore chopé ce truc qu'il a avec Homelander de ce petit regard un peu de psychopathe, etc. Et vraiment, moi je l'ai redécouvert dans Homelander, parce qu'il a et ce côté un petit peu viriliste et tout. Il sait faire le mec un peu séduisant, mais un peu brutal et tout. Et là, ils l'ont complètement transformé en la pire version de ça possible, quoi.
C'est une vraie transformation, parce que c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vu Banshee, malheur à vous, c'était vraiment, oui, c'était le cow-boy vilain, on va dire, très taiseux, le regard de fer, etc. Et quand on l'a découvert effectivement en Homelander, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment lui le héros ou l'anti-héros de la série. Non seulement la trajectoire que le personnage prend est ascensionnelle en termes d'importance, de puissance et d'intérêt médiatique, mais l'acteur aussi trouve de plus en plus de nouvelles façons en fait de jouer cette folie, puisque on est en plein cycle Superman, Homelander fait partie, avec le Omni-Man d'Invincible, des figures contestataires pour présenter le vrai danger que pourrait présenter un Superman dans le présent, avec les idéaux du présent, et quel acteur pourrait mieux l'incarner. Entre lui et Karl Urban, il y a vraiment un duel de qui cherche le moins à jouer juste au bout d'un moment, et simplement dans une sorte de one-man show ininterrompu de mimiques, de grimaces.
Oui, bah Karl Urban, je crois qu'il a abandonné très très tôt dans la série toute plausibilité.
Karl Urban qui prend un accent britannique alors que absolument pas. Oui. D'ailleurs, il y a une différence par rapport aux comics, c'est que normalement dans les comics, Hughie Campbell est un écossais. Dans la version série télé, c'est un américain. Mais il y a aussi ce discours dans la BD que ce sont en fait deux personnes du vieux continent qui arrivent aux États-Unis et qui trouvent que tout est bizarre ou corrompu ou pervers. Dans la série, justement, on a aussi mis du propre sur Hughie pour que ce soit plus un héros plus bienveillant, moins dans cette forme de cynisme, qui permet d'équilibrer un peu entre ces deux grosses figures très, très, et très particulières.
Avec un Nepo Baby.
En plus. Mais très bon Nepo Baby.
Et c'est aussi une critique, mais virulente, évidemment, d'une Trumpisme, voilà, parce que ça, on ne peut pas y échapper, mais aussi d'un système de divertissement incarné par Disney et par Warner. C'est-à-dire que c'est aussi une série qui a réglé beaucoup, beaucoup de comptes sur l'exploitation, au cinéma, les films de Zack Snyder, le DCU, le MCU, etc., sont cités à tout va. Et dans The Boys, il y a quand même une ça tire à boulet rouge sur cette industrie.
Puisque la série est une critique de la starification, comme tu le disais, c'est assez naturel, évidemment, que les super-héros qui, dans le présent, sont juste des créations de fiction qu'on habille pour animer un peu Hollywood, que la série aille justement dans le choc, beaucoup plus d'ailleurs que les BD. De ce point de vue-là, cette partie sur Hollywood est beaucoup plus personnelle à Kripke.
Et avec un proto de Joss Whedon.
Exactement, mais il y a des références à Zack Snyder, il y a des références à Brett Ratner aussi, les réalisateurs qu'on a sortis du système parce qu'ils se sont dévoilés devant leur partenaire, on va dire, à l'écran. Tout le propos sur effectivement la Snyder Cut, alors petit résumé, c'est la première version du film Justice League qui a été sabordée en cours de route, et on a viré le réalisateur après le suicide de sa fille. Enfin, c'est une histoire vraiment très pernicieuse et qui a marqué beaucoup les esprits à Hollywood. C'est abordé aussi, même à l'extrême inverse du spectre politique, il y a une critique sur la façon dont les studios ont un peu voulu taper un sprint sur la mise en avant de la diversité et des idéologies de gauche, en justement montrant qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi là-dedans, que les studios, quelque part, ils font ça par intérêt et que c'est pas spécialement tous, ils sont pas tous très convaincus par la validité de la démarche.
Mais d'ailleurs, il y a même aussi un personnage de femme politique qui est directement inspiré d'AOC, Alexandra Cortez. Et voilà, donc c'est pas une série qui se contente de taper l'alt-right américaine, mais on est vraiment là dans la sature, dans ce qu'elle a de plus généreux, c'est il y en a pour tout le monde.
Oui, complètement. Il y a un truc même un peu d'autodérision, c'est-à-dire que justement le fait de voir un petit peu les limites de leur propre truc aussi. Il y a un truc que moi je trouve assez drôle, c'est que c'est vrai qu'il y a Disney, Warner, etc. Mais là, c'est Amazon.
C'est Amazon.
Donc en fait, c'est aussi. Mais en fait, c'est comme quand sur Canal+, vous pouvez passer Merci Patron parce que c'est sur Bernard Arnault. Bolloré va pas le censurer. Par contre, vous pouvez pas passer les trucs sur Bolloré. Ben là, c'est pareil. Les trucs de super-héros, ben c'est pas Amazon. Eux, justement, leur créneau, c'est d'être dans la critique de ça. Donc ils peuvent y aller à fond sur le MCU, sur le DCU, etc. Et sur le côté politique, effectivement, en fait, ils arrivent dans des États-Unis hyper polarisés. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent en scène. Alors, les auteurs et le propos de la série se situent clairement du côté progressiste, mais en faisant aussi la critique du faux progressisme de ces grandes corporations qui jouent en fait les deux. C'est-à-dire qu'ils instrumentalisent à la fois des affects extrêmement réactionnaires et des affects progressistes par ailleurs, parce que c'est toujours le casino qui gagne à la fin, donc ça parle de ça. Ça
oui, c'est-à-dire qu'on aussi est à fond diversité. Oui, mais on a perdu tant d'argent. Alors on n'est plus du tout diversité.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et mais ce qui va se passer là, c'est ça, ils l'ont un petit peu anticipé aussi. C'est-à-dire que là, il y a déjà des boîtes. Alors dans la tech, mais pas que, parce que Walmart, c'est le cas, a renié maintenant ses engagements sur les politiques de diversité. Jour 1 du mandat.
Mais même Meta, qui était pourtant les premiers. Au moment de Trump, à dire non, on veut plus de cet homme sur nos plateformes, etc.
Oui.
Et quand il est réélu, il a totalement raison, il faut faire revenir.
Donc, Disney, Dwayne Johnson
aussi. Hein,
oui.
C'est assez généralisé. Mais c'est vrai que c'est génial ce que tu dis, parce qu'on a oublié quand même de parler de cette espèce d'incohérence originelle. C'est une série produite par Amazon.
Oui.
C'est une série anticapitaliste qui est, anticapitaliste. C'est une série qui a des idées anticapitalistes, qui est produite par Amazon et qui passe son temps à dire Hollywood ça fonctionne pas, les politiciens libéraux ou les politiciens néoconservateurs ça ne fonctionne pas. En définitive, c'est produit par un grand groupe. Comme mais justement The Boys produit ses super-héros.
Exactement, mais je suis content qu'on y arrive parce que c'était un peu le but de cette émission. Mais c'est même une tendance qu'on voit assez régulièrement. Les Mitchell contre les machines, qui est un formidable dessin animé d'animation qui s'est retrouvé sur Netflix, a pour ennemi Némésis, un entrepreneur de la tech qui utilise les réseaux sociaux et les téléphones pour asservir l'humanité. Et en fait, c'est incroyable d'avoir une industrie qui en permanence souffle le chaud et le froid en dénonçant quelque chose qu'elle pratique. Genre, vous avez vu, on est quand même hyper cool parce que on vous dit ce qu'on fait, mais on le fait quand même tout en le dénonçant.
Mais je pense que c'est même pas forcément articulé comme ça, à mon avis. Quand on connaît un peu Hollywood, on s'aperçoit que les vrais, enfin ceux qui décident de qu'est-ce qui part en production, etc., c'est d'abord les comptables et les actionnaires. Eux, la question de ce que raconte le produit, c'est pas du tout un sujet. Là, on a bien vu, par exemple, avec Joker Folie à deux, personne s'était posé la question de est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pertinent de produire une suite au film Joker. Ils sont juste dit le premier a fonctionné, envoyons la suite en production. Résultat, ils se vautrent, puisqu'il y a une telle déconnexion entre le public et la réalité chiffrée de l'audimat ou des entrées en salle, que, à mon avis, vraiment, je pense que c'est une machine aveugle, hein, Hollywood aujourd'hui, qui ne regarde plus que la performance économique. Amazon, ils sont tout à fait conscients et cohérents avec leurs idées. La série The Boys, comme on l'a dit, elle parle aussi de marketing. C'est-à-dire comment une boîte se sert d'éléments de communication, d'éléments publicitaires pour se donner une image. Et en l'occurrence, les super-héros de Vought, ils ont un seul but, c'est de faire de la publicité pour les produits de Vought, les crèmes, etc. En définitive, la série The Boys elle-même sert à faire la publicité de la plateforme Prime Video, qui est un service d'abonnement qui vous permet de recevoir vos colis, machin, etc. Enfin, c'est un écosystème en fait qui est très bien rodé. Et quand on regarde justement les équipes qui sont en charge de la communication de The Boys, c'est des équipes sur les réseaux sociaux. Ils ont gagné des prix parce que justement ils communiquent à flux tendu. Enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord absolument la queue.
Oui, c'est Squid Game qui dénonce l'ultra-capitalisme à la coréenne et les laisser pour compte, et vendu par un menu quick et le bonnet rose chose pour les enfants, Squid Game, avec des influenceurs, ensuite, sur lequel spécule voilà. Netflix.
Il y a même un exemple qui est aussi un exemple Amazon et qui est un exemple de satire de super-héros, qui est, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est I'm a Virgo, oui. De Boots Riley. Et Boots Riley, lui, il est littéralement communiste. C'est-à-dire qu'il se dit communiste. Dans la série, il y a un personnage avec son pouvoir qui explique l'exploitation de la plus-value de Marx, quoi. C'est lunaire. Et c'est une série qui va même presque plus loin que The Boys dans la critique du super-héros, parce qu'il y a une espèce de tech billionnaire à la Tony Stark qui est un peu l'antagoniste du truc et qui va jusqu'à vraiment saper l'idée même de super-héros et en sapant l'idée même du capitalisme dedans. Enfin, vraiment, il va à fond. Et c'est un des leaders de la grève des scénaristes et il est très engagé et c'est produit par Amazon. Alors c'est pas un budget à la The Boys, etc. et tout, mais il s'en fout vraiment complètement. Et lui-même a été interrogé là-dessus parce que bien sûr on lui a dit ah, vous dites communiste et vous êtes produit par Amazon. Et lui son truc c'est de dire mais en fait moi je suis produit par là il y a un mec qui a un portefeuille à Amazon qui m'a filé ça pour faire le budget. Ça finit sur la plateforme au milieu de tout le reste et moi je prends. Et il dit en fait si je suis chez un moyen producteur, bah c'est un capitaliste tout pareil c'est juste qu'il est moins fort que Amazon. Et en fait ces artistes là ils sont obligés de naviguer dans une industrie où il y a toutes ces contradictions comme il y a dans toutes les industries. En fait il y a pas des réunions de Amazon où ils se disent c'est quoi la ligne idéologique cette année.
Il y a pas de ligne idéologique. En fait il y a pas d'idéologie.
C'est comme et surtout sur les plateformes je pense que c'est pire sur les plateformes puisqu'il y a besoin d'avoir un catalogue et du coup d'avoir les trucs qui vont être les plus salués justement pour leur côté progressiste, voire anticapitaliste, etc. sur Netflix. Et tout comme on va garder à côté, je sais pas, toute la ligne au contraire d'humoristes qui sont à fond sur l'anti-wokisme, les affects réactionnaires, etc. Et les deux vont être sur la même plateforme parce que c'est ça le modèle économique et qu'il faut qu'il y ait un maximum de variété de contenu pour vendre un maximum d'abonnements, tout simplement.
Vendre un maximum d'abonnements, ce que d'autres appellent la liberté d'expression totale.
Exactement.
Très en colère.
So, I guess you've all heard about Starlight's alleged involvement with a few.
Vous avez tous entendu parler du soutien officieux de Stella des trafiquants d'êtres humains. Mm. Mais, et quelle incroyable coïncidence qu'elle ait ouvert des centres pour ados déshérités, c'est curieux, non? Hein? Faut pas non plus nous prendre pour des imbéciles.
What the holy fuck does he think he's doing?
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il est en train de fabriquer là?
Ces pauvres gamins, ils acceptent d'entrer dans des centres. Et là, ils disparaissent. Et on les revoit plus jamais. Vous vous rendez compte? C'est affreux. Et même si elle est dure à accepter, il va falloir faire face à la triste réalité. Stella est un loup dans notre bergerie. Point à la ligne. Basta. Elle m'a trahi. Elle vous a trahi. Elle nous a tous trahis. Et maintenant, elle cherche à me compromettre. Pourquoi? Parce que sans moi, elle sait que rien ne l'arrêtera. Et qu'elle pourra faire tout ce qu'elle veut, où elle veut. C'est la triste vérité. Vous croyez que les médias, nous, comment ça, les médias, là, de nous, vous croyez qu'ils vont parler de ça? Non, ils vont tout enterrer.
Un extrait de The Boys où on a entendu Homelander, le protecteur, interprété par Anthony Starr avec Jérôme Povel pour la version française. Ce qui est marquant aussi dans The Boys, c'est qu'assez rapidement, les gens ont vu le protecteur Homelander comme un véritable héros. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui l'ont défendu comme, bah non, mais il a raison. En fait, tout ce qu'il fait est totalement justifié. Qu'est-ce que ça dit de nous, cette erreur de lecture sur ce personnage-là?
Alors en fait, pour moi, il y a deux choses. C'est qu'il y a des erreurs de lecture qui sont vraiment, c'est-à-dire des gens qui ont compris au fur et à mesure en se disant, mais attendez, la série le traite comme un méchant. C'est, je pense que j'avais pas l'impression que ça partait là-dessus, ce qui est vraiment une incompréhension. Et qu'il y a en fait à une forme de confusion en fait générale dans la société qu'est-ce qui est presque le bien et le mal en fait, mais qu'est-ce qui est quels affects politiques renvoient à quoi, quel est le propos politique d'une série. En fait, c'est même le fait même que ce soit une série politique n'était pas compris. Donc il y a une incompréhension et il y a aussi juste des gens qui se retrouvent dedans. Parce qu'en fait, ils représentent quelque chose qui est eux. Et c'est pas pour m'auto-citer mais dans le livre que j'avais écrit, pour lequel tu m'avais reçu très gentiment, le syndrome Magneto, parlait de justement le fait de se réapproprier les méchants. Et dedans, effectivement, je parlais de méchants qui pouvaient devenir des étendards de causes progressistes ou de combat contre l'injustice, etc. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire si des gens se reconnaissent dans ce personnage de psychopathe à l'ego fragile qui a hyper peur pour ses privilèges et qui est vraiment littéralement considéré comme un bébé cadom, il est renvoyé à un bébé.
Mais d'ailleurs, oui, ça, mais c'est temps, littéralement, c'est-à-dire qu'il lui faut du lait.
Oui, carrément, c'est vraiment des choses très très concrètes là-dessus et qu'il y a un néo-fasciste. bah quelque part, si, enfin, ils ont le droit en fait de se le réapproprier. Et ça, à la limite, du coup, ils ont bien compris. Il y a pas de problème. Ce qui est fou, c'est de pas avoir vu que le propos de la série, c'était de critiquer ça. Ça, par contre, c'est vraiment un état de confusion qui est total et de un problème de lecture vraiment de ce qu'on consomme comme produit culturel, en fait.
Quoi. Je suis tombé sur des forums, mais surréalistes, notamment sur une scène où, en fait, Homelander présente son fils. Alors, un fils, en plus, qu'il a eu suite à un viol. Hein, donc, on est quand même déjà... A priori, il devrait pas y avoir de débat là-dessus sur la moralité ou non-moralité de Homelander, mais il le présente à la foule et il y a un manifestant qui lance quelque chose en disant « mais tais-toi, salaud de fasciste », etc. Et Homelander a un coup de sang et le fait exploser avec sa vision thermique. Et en fait, là-dessus, les gens sont un peu sidérés et en fait, ils se mettent à applaudir, genre « bah oui, quand même, il t'a attaqué ». Et j'ai vu sur des forums des gens dire « bah oui, mais attendez, c'est de la légitime défense, il s'est fait attaquer, donc il s'est défendu ». Et je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une erreur d'interprétation sur une scène pareille.
Bah, cette scène qui a fait le tour du web est devenue un peu l'alpha réaction pour justement signifier de cas qui existent comme ça dans la société, comme par exemple quand un policier abat un jeune et qu'on lui fait une cagnotte pour le remercier de son geste héroïque, ou comme quand par exemple des personnes de l'église catholique romaine nous expliquent qu'il faut accueillir les migrants et qu'en échange on leur répond qu'ils sont animés par Satan. C'est encore une fois un reflet de la société dans laquelle on évolue, qu'on peut trouver triste, qu'on peut trouver problématique, préoccupant, mais c'est pas The Boys qui a inventé ça. En revanche, c'est vrai que, par rapport à ce que tu disais juste avant, je pense que quand la série démarre, on sort effectivement de Game of Thrones, on sort de ces mondes fictionnels où on a apprécié en fait de suivre des ordures. C'était quelque chose que David Chase avait dit sur Les Sopranos, qu'il ne voulait pas terminer la série sur un bain de sang moral, parce que justement, les gens avaient appris à apprécier Tony et que il faut aussi qu'ils se posent des questions de pourquoi. Et au bout d'un moment, la télévision a transformé ces figures en fait de rigolo salaud, soit de pervers un peu amusant à suivre et pour lesquels on s'inquiète, parfois même on n'a pas envie qu'ils se fassent choper, etc., comme Dexter ou comme dans les Heroes of Anarchy. Et ça devient en fait une sorte de grand flou moral. En fait, on ne sait plus exactement, comme tu le dis, quel est le bien ou le mal en fiction. Le problème, c'est qu'après, ça traverse cet écran et on arrive dans un monde qui est même plus juste polarisé, en fait, qui est vraiment un monde de débat absolument de sourds, dans lesquels effectivement un personnage comme Homelander, qui en plus a ce charisme de l'acteur et a cette figure et cette puissance, devient un peu quelque part, oui, une sorte d'idéal fasciste incarné et qui montre aux gens, en fait. Qui montre aux gens qui adhèrent à ces idées à quoi ressemblerait le vrai Superman fasciste dont eux rêvent en secret.
Alors c'est intéressant, mais ça pose la question, Benjamin, de le côté pervers que peut avoir la satire quand au bout d'un moment, à force d'être subtil dans ce qu'on veut dénoncer, t'as des gens qui disent « non, en fait, moi ça rentre bien avec mon logiciel de pensée ».
Ouais, mais même quand, parce que là, c'est quand même pas très subtil. Donc, en fait, c'est même pas une histoire de subtilité. Et je pense qu'il faut faire le deuil aussi de se dire, en fait, il y aura toujours des gens qui soit comprendront pas, soit seront de mauvaise foi et feront rentrer des ronds dans des carrés. Et c'est pas un problème. Et en fait, pour moi, il y a pas de solution à ça. Parce qu'on peut dire, il peut y avoir la critique de, oui, mais en fait, on devrait pas iconiser Homelander. En fait, on devrait pas faire des méchants iconiques. Parce que justement, sauf que déjà, en fait, c'est quand même dommage de pas faire des méchants iconiques. Et on peut justement rendre terrifiant et emblématique quelque chose qui représente, voilà, y compris le fascisme, etc., ce qui était déjà le cas de Dark Vador, en fait. Et à partir du moment où il y a des gens qui auraient récupéré Matrix pour en faire une icône réactionnaire, enfin voilà, je veux dire, en fait, on s'en sort pas. C'est-à-dire que si on peut avoir peur de son ombre et essayer de tout éviter, pour moi, c'est normal. Et là où je trouve que The Boys échappe vraiment, en fait, à cette critique, c'est que tous les exemples que vous avez pris, la réaction à The Boys et ce rapport à Homelander et à cette satire-là, et dans la série. C'est-à-dire qu'elle est déjà dans la série, cette foule qui fait « ouais », alors qu'il vient de faire un truc absolument épouvantable. Donc je trouve que cette série, elle a déjà compris qu'il se passait ça aussi dans la société, et le traite déjà. Donc, quelque part, les gens qui réagissent à Homelander, ils sont déjà eux-mêmes dans la série qui regardent, et elle est pas du tout prise au dépourvu, en fait, cette série. Et Rip Criquet avait un peu répondu à ça, en plus, en disant, genre, « qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Il y avait vraiment, c'est un peu ça son truc, c'est de dire... Moi, je vois pas ce que je peux faire mieux. Si vous voulez dire Homelander, il est génial, etc., c'est votre problème, en fait. C'est votre problème. Moi, j'ai fait mon taf, quoi.
Nous allons enfin pouvoir interroger dans un cadre légal Bones sur ses actes et sur son propos d'élevé. Oui.
everyone.
Salut tout le monde. Puis-je?
Thank you. I know that some of you are a little upset.
Je sais qu'un certain nombre d'entre vous désapprouvent les images qui circulent, qui me montrent en train de stopper un terroriste. Et je tenais à vous dire que je comprends votre colère. Ça me met en colère aussi. Personne au monde ne souhaite que de pauvres innocents soient massacrés. Nous sommes tous d'accord. Malheureusement, je connais des méchants qui ont un autre avis sur la question. Et c'est là que, sans que nous le voulions, des incidents de ce genre se produisent.
Quoi ? C'est déjà arrivé avant ?
Combien de fois ?
Non, attendez les amis, c'est pas ce que j'ai dit. Vous et nous, nous sommes sur le même bateau. Ce que nous voulons, c'est protéger notre pays et vivre en paix.
La vie d'un Américain vaut plus que celle des autres ?
Bien sûr que non. Mais si, comme moi, vous vous étiez battu aux côtés de nos soldats, vous sauriez que sans sacrifice, il n'y a pas de liberté.
Ne parlez pas pour nous.
Il a raison.
Ne parlez pas pour nous.
Calmez-vous.
C'était un extrait où l'on a entendu Victoria Newman interprétée par Claudia Dumit avec Céline Melloul pour la version française, puis le Homelander interprété par Anthony Starr avec Jérôme Povels pour la VF. Alors on arrive bientôt à la fin des saisons prévues pour The Boys. Olivier Corentin, il y avait combien de saisons prévues logiquement ?
Je crois que c'est 5. Et actuellement, elle est en cours de tournage, la dernière saison. Entre-temps, comme on l'a dit, le phénomène a grossi, donc il y a eu un spin-off qui s'appelle Gen V, et qui raconte l'histoire d'une petite troupe d'étudiants sur un campus qui est une propriété de Vought International, l'espèce de Amazon de l'univers The Boys. Et un autre spin-off qui est en cours, qui devrait se passer au Mexique, avec Gabriel Garcia Bernal et Diego Luna, je crois, qui sont à la production.
Et que dire de ce spin-off Gen V?
Ben c'est très intéressant puisque c'est intelligemment fait. C'est vraiment une saison de complément.
Oui,
ça
oui.
S'inscrit vraiment dans la genèse de l'intrigue principale. Il est même a priori utile de la voir pour comprendre la fin. Ce qui est vraiment intéressant, c'est par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, Frédéric, sur si les super-héros étaient dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donnerait. Là, on voit en fait des idées qui s'appliquent au complexe adolescent ou des jeunes adultes par rapport au rapport au corps, par rapport à la sexualité, par rapport à des troubles de l'identité et aussi une belle mise en image du concept de la non-binarité. Par exemple, donc vraiment une série qui a fait son travail. Malheureusement, elle est un peu passée sous le radar par rapport à The Boys classique, mais ça revient cette année aussi pour Gen V. Donc on aura la suite de ces personnages.
Il y a un acteur qui est décédé.
Tout à fait, Chance Perdomo qui est mort dans un accident de moto malheureusement et qui du coup ne sera pas recasté pour la saison 2.
Et quelle place a la satire dans un monde où, comme vous l'avez très très bien dit l'un et l'autre, la satire est de plus en plus mais outrancière au jour le jour. C'est-à-dire que moi, quand je regarde certains discours de The Boys, j'ai l'impression même qu'ils sont des fois en deçà de certaines prises de parole qu'on peut avoir depuis quelque temps avec l'élection de Donald Trump, les prises de parole d'Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, c'est-à-dire que on a l'impression que une bonne partie du monde s'est dit hey, The Boys a mis la barre là, hold my beer comme disent les autres, on va mettre le curseur encore plus haut. Donc comment on arrive à créer de la satire dans un monde qui est déjà tellement grand guignolesque?
C'est vrai que Homelander n'a pas fait... Il n'y a pas une scène à la fin de la saison 4 où Homelander fait littéralement un salut fasciste et disant non, c'est pas un salut fasciste, etc. C'est un truc qu'ils auraient pu faire et même, c'est vrai qu'on aurait pu trouver ça un petit peu gros, mais pour moi, il ne faut pas en attendre beaucoup plus de la satire que ce qu'elle peut faire. Et dans ce cas-là, ce qui est au moins réussi, c'est que déjà, effectivement, ils reproduisent déjà assez bien des choses qui se sont passées avant. Tous les discours sont effectivement souvent très référencés à des discours réels. Mais a priori, ils arrivent bien à peu près anticiper au moins à 6 mois ce qui va se passer. Donc moi, je pense pas qu'on puisse leur demander beaucoup plus que ça. Ils ont vu assez juste sur ce qu'était l'air du temps. Et ils resteront comme une marque un petit peu de cette époque-là, assez réussie. Quoi.
Et puis j'ai envie de dire que si les artistes n'ont pas réussi à inciter les géants de la tech à ne pas se lancer dans l'intelligence artificielle, parce qu'on a quand même eu des films qui nous ont dit ça va tous nous détruire et on va tous vivre dans des cocons.
Matrix, voilà. Terminator, etc.
Et au final, ça arrive quand même. Donc peut-être qu'il faut laisser les artistes juste écrire des histoires et laisser aux gens le soin de les comprendre dans la foulée.
Rappelons que Charlie Chaplin a réalisé et joué dans Le Dictateur bien avant l'arrivée au pouvoir total d'Adolf Hitler et que ça n'a
Rien n'a pas changé grand-chose.
Et ça lui a valu des problèmes.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'était pas très courageux de critiquer Hitler, parce que bon, personne n'aime vraiment Hitler, a priori, même si c'est en train
c'est
de...
Polémique. Ouais, c'est polémique.
Ouais. Et à l'époque, quand Chaplin l'a fait, il a eu d'énormes problèmes, en fait. C'était de la folie, quoi.
Eh bien, sur cette touche d'optimisme, j'ai envie de terminer cette émission. Merci beaucoup Benjamin Patineau, merci Olivier Corentin. J'aimerais en profiter pour remercier également Charles de Cilia qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani et Manon Rax et Étienne Quenel. Et à la technique aujourd'hui, Guillaume Ficheux. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler avec moi directement sur Instagram. Vous savez, la plateforme de l'autre, là, Mark Zuckerberg. Et vous pouvez d'ores et déjà écouter toutes nos émissions consacrées à Superman en podcast sur l'application Radio France.